Radio FMR 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 29 avril 2006, il fait beau, il fait chaud, et vous écoutez la radio. Comme tous les samedis, FMR ouvre avec les magazines Supplément Week-end, BD, cinéma, télévision, jeux vidéo pour une fois, suivi du cahier du sport, et à partir de 15h du mix avec, mais qui c'est qui m'a encore effacé le Velada? Non, à 15h, Zama pareil, c'est du reggae, 17h, vide ordure, c'est du punk, 18h, tu peux l'ouvrir, c'est une émission participative, le numéro de la station c'est le 05 61 580 580, 19h, Happy Hour, bah nous on a déjà commencé, Cahouette, Schweppes, tequila, vin, olive.
Ah oui,
si, il y a même du sauciflard. 20h, la Stétéro Experience avec bien évidemment Digitro, et quand c'est trop,
c'est tropico.
Oui, bien sûr. 21h30, Liquid Sky, et c'est l'électro bien barré. Et 23h, Breakbeat Experience pour la jungle, pour finir de se ramasser les oreilles, évidemment en direct, en public et sur Radio FMR 89.1 MHz. Nos émissions sont ouvertes jusqu'à 5h du matin.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Oui, bon, évidemment, on se la pète. Ça va bien, Thomas?
Ouais.
On a un invité aujourd'hui. Bonjour, Christian.
Bonjour.
Christian Mondo. On fait sa bio juste après. Et juste là pour une histoire de jeu vidéo. Ça tombe bien, l'introduction est en rapport avec le jeu vidéo. Et je dois dire, je mets en route le lecteur et après je me taille.
Ah.
Water mains overflowing drains that stink in the rain. Central heat
Super Mario Brothers, Brothers, Brothers.
Ambassadors of Funk, featuring MC Mario, Super Mario Bros. Sam. C'est sur un CD qui est sorti chez Alpha Records en 93 et uniquement au Japon. Donc là, celui-là, pour le trouver, vous pouvez vous lever tôt, c'est le cas de le dire, qui s'appelait Super Mario Compact Disco. Et tout le reste, c'est que des thèmes de la série Super Mario, de la licence Super Mario. Il manque le Donkey Kong, peut-être, le tout premier, celui d'avant.
Xavier, tu sais que il y a un gros effort en ce moment pour les connaisseurs des jeux vidéo pour faire passer l'idée au grand public que les jeux vidéo, c'était du bibi bibi Pac-Man. Là, tu es en train de saper tout leur travail.
Je n'en ai strictement rien à brer.
Qu'est-ce que c'est ça encore?
The Orb, extrait de la compil UFOF, la compilation de leur best-of, etc. Enfin, des deux seuls albums qu'ils aient fait de bien, plus des remixes. Mais nous ne sommes pas là. Pour ça, il faut présenter quand même notre invité, Christian Mondeau. Christian Mondeau, d'abord, je tiens à faire une précision par pure honnêteté, c'est que on est collègues.
C'est pas vrai.
Thomas si, et si. Moi, si si, tout à fait, ouais. Donc malheureusement, donc ça il faut le dire. Donc ensuite vous comprenez un peu que ça va, il va pas me massacrer après la bio que je vais lui consacrer. Christian Mondeau est une rareté, c'est un critique de jeux vidéo qui a passé un certain âge. Combien 35 45 tu vois.
Bon,
disons 40
25.
Bon d'accord, OK. Donc c'est l'un des rares critiques de jeux vidéo en France à officier à la télévision. Un fait plutôt surprenant quand on connaît le poids de l'industrie vidéoludique équivalente à celle du cinéma hollywoodien en chiffre d'affaires.
Plus même.
Plus. Oui, 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 c'est vrai, exact. Alors que quand même, on parle de loisirs. Notre invité officie sur une chaîne de Jones sur le satellite. Pourtant, il se garde bien de parler la novlangue spéciale Jones, formatée par Energy. Et malgré la contrainte d'une durée d'émission serrée, d'où son débit d'Antoine Decaune, tendance rapido à l'époque où c'était le bon temps sur Canal+, Christian Mondeau fait le choix d'une critique adulte. Nah, rien à voir avec ces trucs genre interdits aux mineurs, mais une critique constructive au texte qui joue avec l'intelligence du téléspectateur. C'est rare. Ah, que ça fait du bien. Quand on voit ce qu'est devenu Game One depuis leur rachat par MTV... Et
ouais,
puis...
bon, ça va, on sait, il y en a marre du Jaffan Club, il y en a marre
Ouais, bon, d'accord, ok, il y avait aussi Julien, alias Gollum... ah, bonjour du sport. Bref, marre de réduire les joueurs de jeux vidéo à des gamins boutonneux, mais considérons aussi un public plus vaste, parfois trentenaire, et de plus en plus féminin. Donc, pour parler d'un jeu qu'on pourrait qualifier d'auteur dans son script, on a choisi un spécialiste qui parle en termes précis, avec une très vaste culture, mais qui avant ça est surtout un ancien de Radio FMR. Christian Mondeau, bonjour.
Bonjour.
Ça va te faire bizarre de revenir là comme ça dans l'associatif.
Oui, c'est assez émouvant. C'est assez émouvant. Je suis très content.
On t'a un peu égratigné, mais on s'est dit on va y aller gentil, sinon...
Oui, il ne voudra plus revenir après.
Voilà, exactement.
Non, c'était plutôt plaisant. Là. Vous avez été gentil, franchement.
D'accord. On va parler tout à l'heure donc de l'adaptation par Christophe Gans d'un des jeux majeurs, mais en attendant, on va commencer par la revue de presse.
Alors là, pour l'instant, on n'a qu'un nouveau magazine, c'est Score numéro 19, toujours 3€, avec en couverture ce mois-ci le numéro spécial sur les films événements X-Men 3, Mission Impossible 3, Da Vinci Code 3, non, c'est Da Vinci Code tout court, et Nacho Libre, le nouveau film avec Jack Black. Alors, dedans, à part tout ça, on peut voir ils ont une rubrique qui s'appelle « Refais le meuleux », qui sont les futurs remakes à la con des classiques. Donc, on apprend que le film Suspiria de Dario Argento sera remaké par la réalisatrice de Deep Impact. Oui, bravo. Et ainsi que le monumental à toute épreuve de John Woo, et ben il va être remaké lui aussi par les ricains, avec Jonito Manette, et sachant que Sean Fat reprendra son rôle de flic tête brûlée, et il faut qu'il trouve un remplaçant à Tony Leung, car il veut pas être associé au projet, on le comprend. Voilà, donc toujours énorme score. Ah oui, surtout, il faut pas oublier qu'ils ont un petit fascicule qui va avec, qui s'appelle Snack, la culture DVD, où il chronique tous les sorties DVD, ainsi qu'à l'intérieur, un mini-magazine, à l'intérieur du mini-magazine qui s'appelle Virus, et qui chronique, lui, les jeux vidéo.
Voilà. Et donc il y a un magazine dans le mini-magazine.
Voilà, et à la
fin. Dans le mini-magazine, il n'y a pas un timbre.
Non.
D'accord.
Et à la fin, il y a aussi un qui chronique les BD, BD Max, et Télé, qui est à mourir de rire, la chronique Télé. J'aurais pu vous souligner des passages pour les lire, mais on n'a pas le temps, c'est vraiment énorme. Il y a un passage consacré à une programmation, je pense que du sport en parlera, spécial Steven Seagal, qui est à mourir de rire.
Grandiose, yes.
Il parle de Nico, à l'époque, Seagal n'avait rien.
Steven Seagal.
Seagal n'avait donc rien tourné, même pas un porno amateur avec le fantôme de Bruce Lee. C'était juste connu du milieu hollywoodien pour avoir été le garde du corps de personnalités célèbres, sauf Sim et Patrick Topalov. Alors je vous en passe, c'est que ça pendant... pendant une page entière.
À noter de mon côté sur Revue de Presse la sortie du nouveau Suprême Dimension, le magazine des éditions Soleil. Je l'ai pas encore lu, sachant qu'il y a la fin d'Universal War One, la BD événement d'un dessinateur qu'on a Bajram. Que j'avais interviewé moult fois d'ailleurs là-dessus, et aussi une chronique à propos du symposium qui a eu lieu à Monaco là ce mois-ci, scénario du cinéma et bande dessinée et jeux vidéo, avec un article signé.
Oui, on le connaît, oui. On va voilà. Et dis-moi, l'article qui est à la
exactement.
Fin sur deux pages, d'accord.
le microcosme de la bande dessinée. C'est marrant. Pour une fois, il n'y a même plus besoin de parler ni de Lewis Trondheim,
ni
surtout
de Menu.
De Jean-Christophe Menu. Il y en a marre de parler de ces mecs qui se la jouent en envoyant, en se faisant encenser par Télérama, et Télérama va se prendre une couche tout à l'heure à l'antenne.
Ouais.
Donc, on va peut-être passer directement à la sortie bande dessinée. Commencer avec un bouquin qui m'a vraiment fait un choc. Fumio Kuno, le pays des le pays des cerisiers, made in c'est la collection, on va dire un peu adulte et bande dessinée un peu d'auteur dans la collection Kana. Kana en fait c'est la filiale de Dargo consacrée au manga. Donc Christian, tu peux continuer à regarder, tu vas voir, il est très bien ce BD. Cette bande dessinée, c'est une jeune femme qui vit dans le dénuement, mais qui se débrouille, qui refuse de se plaindre de son sort, qui a des rêves touchants de simplicité. Et dans la marginalité d'un Japon qui finit de panser ses plaies de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale, avant d'entamer sa fulgurante croissance économique. Hirano vit de petits boulots, de débrouilles, préférant marcher pieds nus pour aller entre son travail et le bidonville où elle vit. Le dessin est jeté, les personnages semblent vivants, tellement qu'ils sont gauches. Bref, on s'y attache. Et en tournant une double page, c'est la claque. La double page n'a pratiquement aucun dessin. Elle n'est composée que de cases vides et de textes bouleversants. Comme celui-ci. 10 ans ont passé, mais ceux qui ont lancé la bombe atomique pensent-ils encore en me voyant « Hurrah, on en a encore tué une ». L'histoire débute en 1955 et cette jeune femme vit à Hiroshima. La bombe, elle en a vu les horreurs, mais elle n'y pensait plus. Enfin presque, c'était des très mauvais cauchemars. Kana Dargo a sorti ce livre le mois d'un triste anniversaire, celui des 20 ans de Tchernobyl. Dans les deux cas, les civils sont les premières victimes et ceux qui n'en sont pas morts dans l'immédiat en souffriront horriblement, puisqu'il faut savoir que les maladies de l'irradiation, si on n'en meurt pas de suite, on en meurt d'une longue dégénérescence qui ne se voit pas mais qui sont très handicapantes et vraiment dans d'atroces souffrances. Et pour Tchernobyl comme pour Hiroshima, le désintéressement des pouvoirs publics ajoute l'insulte à l'injure. c'est l'histoire d'une famille qui en souffrira discrètement à travers les décennies. Et ces mots, il valait mieux ne pas en parler sous peine d'être considéré comme pestiféré. C'est encore le cas actuellement. Ce livre fait mal, il est critique à la fois sur les dégâts de la bombe atomique, mais aussi sur la société japonaise qui considère toujours les Hibakusha, c'est-à-dire ceux qui ont été victimes de l'irradiation, comme des parias. Il raconte cette exclusion trop discrète avec une finesse toute féminine. C'est ça qui rend cet album touchant et qui choque d'autant plus. Je vais faire une pause dans la bande dessinée parce que je pense que c'était amusant justement de parler comme ça, de pays, puisque tout à l'heure je vais parler quand même du nouvel Anki Bilal qui est sorti hier, hein, la tétralogie du monstre, tome 3 sur 4, et oui, ce ne sera pas une trilogie, ce sera une tétralogie. Rendez-vous à Paris qui vient de sortir chez Casterman, changement d'éditeur.
Ça s'appelle comment alors le troisième tome?
Rendez-vous à Paris.
D'accord.
Après 32 décembre et le tout premier qui...
Sommeil du monstre.
Sommeil du monstre, voilà. Exactement. On va parler par contre d'un dessinateur que j'adule, que je trouve absolument extraordinaire. Il s'agit de Brian Frood. Brian Frood, là c'est Frood, excusez-moi, je vais y arriver. C'est associé avec Harry Berk pour sortir un très bon bouquin, Les Runes du Pays des Elfes, dont la traduction française, d'excellente qualité d'ailleurs, il faut le signaler, vient de sortir chez Glénat. Bon, Brian Frood, qui c'est, puisque j'en ai pas vraiment parlé, je suis désolé, là j'étais un peu happé par du sport qui voulait me faire écouter un truc. Oui, c'est très indiscret comme ça. Brian Frood, c'est l'illustrateur génial du livre des frais séchés de Lady Corrington. C'était un bouquin qui était bourré d'illustrations de fées. En fait, c'était l'histoire d'une fille qui, au début du XXe siècle, avait constitué un herbier fait de fées. Elle s'asseyait dans son jardin, elle attendait qu'une fée se pose sur son bouquin. Paf ! D'un coup, elle écrase. Et le bouquin était vraiment excellent parce qu'il y avait une couverture qui était assez épaisse. On avait l'impression, quand on saisissait le bouquin, d'appuyer un peu, qu'on écrasait les fées. Il y avait vraiment un travail sur la texture, un travail d'impression qui était très bien réussi. Il est aussi le designer de deux films qui ont été produits par Jim Henson, Dark Crystal et Labyrinth. Donc c'est vraiment vous dire le côté fantastique, le côté féerique qu'il donne à ses œuvres. Sont absolument superbes, il travaille pas mal sur les aquarelles, sur les crayonnés, ses dessins sont très très beaux. Et quand il s'associe avec un poète professeur de mythologie, alias Harry Berk, c'est pour nous faire découvrir l'alphabet sacré des runes et par là même l'immense richesse du monde des elfes. Le livre est de très bonne facture. Les illustrations sont très bien rendues, voire carrément enchanteresses. Mais ce n'est pas vraiment le dessin qui fait le charme de ces livres. Non. Ces sortilèges, ce sont des poèmes, des contes à lire, à voix haute, pour qu'un autre monde s'ouvre. C'est-à-dire qu'en fait, chaque rune est décrite non pas par le son, mais par ce qu'elle représente. On lui donne, on lui donne un charme, qui est un petit poème. On lui donne un conte, un récit, vis-à-vis justement de ce qui l'ouvre. Et ensuite, le présent, c'est un peu justement ce qui va vous arriver si vous lisez justement ce charme dans, je ne sais pas, dans une forêt comme Brocéliande, etc. Et une fois qu'on a ouvert cette porte vers un autre monde en lisant un conte à voix haute, une fois qu'on est de l'autre côté, c'est à vous de vous débrouiller dans ce monde parallèle insoupçonné. Tiens, rien que pour le plaisir, je vais vous lire le charme de la rune de compagnie. Quand tu rêves du puits, ou du monde à l'envers, ou de la poussière derrière la porte, ou que tu entends ton nom quand personne n'est alentour, cherche le miroir sous la terre, où les royaumes se rencontrent, et tu me trouveras attendant ta venue.
Bonjour, et donc vous apparemment une petite... sais pas ce qui arrive là, mais je problème.
Ça semble remarcher, d'accord, merci. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Non plus. Il commence à y avoir de la neige qui tombe. C'est de la cendre.
C'est de la cendre.
Non,
je suis formel, c'est de la cendre.
Bon, on va commencer l'interview, Christian. Ça va être à toi.
Je crois qu'il faut y aller.
Pour ceux qui nous prendraient en cours de route, on va parler de jeux vidéo. Depuis quand, toi, tu as commencé à jouer? Est-ce que tu es plutôt de la génération Pac-Man, NES ou PlayStation?
Honnêtement, j'ai commencé en 97.
Ah oui, c'est tout récent alors.
C'est tout à fait récent. Et j'ai commencé par une Master System avant de passer à la Mega Drive.
En 97, une Master System.
Voilà. Donc effectivement, c'est encore dans les limbes.
D'accord, ok.
Est-ce que tu as un genre préféré, alors, à choisir entre désinguer l'illustrement au bazooka nucléaire, niquer les autres bagnoles en coupant la ligne d'arrivée le premier, castagner la gueule à des chinoises au bracelet à clous en balançant 52 hadouken par round, ou empiler des briques pour monter à bord d'une fusée?
L'histoire de la voiture me plaît bien, là. Faire la casse en bagnole, ça me plaît bien, ça.
D'accord.
Ça serait plutôt mon style, ça.
Ok.
Je le sens bien. Ventilé.
D'accord. On va parler aussi du fait que tu chroniques sur une chaîne télévisée qui est diffusée sur le câble, mais justement, est-ce que c'est pas un peu étonnant que quelqu'un qui ait plus de 30 ans chronique du jeu vidéo?
Non, c'est je suis tombé dedans de façon comme ça impromptue, et je le fais par passion. Je pense que le ton que j'ai, effectivement, tu en parlais tout à l'heure, qui est un peu décalé, qui n'est pas volontairement Jones. C'est un ton que j'ai déjà, ma personnalité est comme ça, je parle comme ça aux gens que je rencontre, et quand je donne un avis sur quelque chose, c'est une façon un petit peu de faire passer la passion que j'ai, et les jeux vidéo, c'est quelque chose qui m'anime donc depuis 97. J'en parle de cette façon-là, souvent en y mêlant de l'humour un petit peu déjanté, une recette de cuisine ou de la philo, ou un commentaire sportif. Je pense qu'il faut pas rester avec un ton corporatiste quand on aime quelque chose avec passion.
Ce qui est quand même étonnant, c'est justement, on parlait du poids de l'industrie vidéoludique par rapport au poids du cinéma, et il y a très peu de critiques et la plupart sont pas mal achetées quand même. Moi je me souviens au début des années 90, quand Tilt a disparu, qu'il ne restait plus que Génération 4, j'étais extrêmement déçu. Il n'y avait aucune critique qui allait en dessous de 9 points sur 10. C'était un peu lourd. Est-ce que toi tu te fais réellement acheter, ou est-ce que ça existe encore, ou est-ce que finalement tu te dis non, j'ai pas besoin de la pub pour en vivre?
Non, j'ai pas besoin de la pub pour en vivre, et je ne me fais pas acheter du tout. J'ai d'excellents rapports avec les éditeurs de jeux vidéo.
En général, excellent, ça veut dire que c'est justement tu te fais acheter.
Non, ça veut dire qu'effectivement ce sont des gens qui me laissent faire exactement ce que je veux, je ne subis aucune pression de leur part. On m'a pas graissé la patte, jamais. Et il y a effectivement un certain rapport de camaraderie, même pas de copinage. On est autour de la même passion, on parle les mêmes choses avec la même exaltation, je pense. Parfois, on est déçu sur des produits qui ne tiennent pas forcément leurs promesses. La plupart du temps, il y a une avancée, moi, qui m'étonne toujours avec autant de fraîcheur dans le jeu vidéo. Et je crois que c'est ça ce qui nous rassemble, les éditeurs de jeux et moi, entre autres.
D'accord. Il y a Thomas qui parle de se faire fesser avec une pelle, mais ça tombe bien puisqu'on voulait parler par rapport aux jeux vidéo qui parlent des promesses. Il y a vraiment le côté industriel du jeu vidéo, et il y a la vision du jeu vidéo côté auteur.
Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'en ce moment, on a de plus en plus de reconnaissance envers les créateurs de jeux en tant qu'auteurs, comme Suzuki ou comme Hideo Kojima qui avait créé les Metal Gear. On a toujours le inamovible Miyamoto. Là, on est en train de passer à quelque chose de supplémentaire. Là, c'est avec les joueurs qui commencent à avoir la trentaine, qui commencent à parler de ça. Voilà, c'est un peu comme le cinéma en ce moment. C'est la politique d'auteur dans les jeux, quand même.
Qu'est-ce que tu veux me faire dire exactement?
Non, je voulais ton avis dessus. En fait, ou alors est-ce que tout le monde s'emballe et que pas encore, c'est juste un fantasme de joueur.
Je pense que c'est encore du domaine du fantasme. D'accord. Du joueur. On reconnaît les auteurs, il y a maintenant une vraie culture autour du jeu vidéo, je pense. Bon, les gens vont de plus en plus profondément dans l'origine du jeu vidéo, s'attardent davantage au gameplay par rapport au graphisme. On a dépassé ce stade-là, on commence effectivement à ressentir une vraie passion, encore une fois. envers le jeu vidéo, et les gens commencent à rentrer en profondeur dans le jeu vidéo.
Oui, puisqu'à un moment donné, on sentait vraiment que bon, la politique des firmes qui produisaient les jeux, c'était prendre un Tomb Raider 12 ou un Ridge Racer numéro 15. Là, en ce moment, je pense que on assiste à des jeux de plus en plus différents, des volontés d'innover.
Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Malheureusement, on remarque aussi que certains éditeurs sont dans une volonté quand même mercantile assez nette et multiplient quand même les évolutions par numéro de jeu. Donc tu parlais effectivement d'un jeu vidéo qui va avoir plusieurs volets. Malheureusement, sur la majorité des cas, on assiste bien souvent à un numérotage supplémentaire, oui, à un nouvel épisode, sans grande amélioration de gameplay et sans véritable innovation derrière.
Puisque là, on va parler justement d'un jeu vidéo. Moi, je suis pas exactement d'accord avec Thomas par rapport au tout début des jeux vidéo, par rapport aux années 80. Je trouve que justement, on reste vraiment dans certains styles. Il y a plus vraiment de création. On a l'impression finalement que la 3D importe, au lieu finalement, alors que quand il n'y avait que des possibilités qui étaient assez limitées et qu'on en était qu'au 2D, il y avait plus de créativité. Ça a disparu après, bon, ça, on s'en fout. On en est maintenant actuellement. On parle d'une licence qui est assez particulière, qui est Silent Hill. Puisque c'est pour ça qu'on a foutu la sirène, par rapport au film. Est-ce que toi, tu penses que ce genre de jeu aurait eu finalement moins de chances d'apparaître au début des années 80 par le fait que justement il y avait trop de trucs créatifs, alors que maintenant on est justement dans une période où finalement les grandes bases sont posées, les grands styles sont mis?
Je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal, non pas à s'imposer, mais tout simplement à exister à ce moment-là. D'abord parce que les moyens, de toute façon, n'étaient pas les mêmes. C'était les années 80, c'était le balbutiement, en fait, du jeu vidéo, on va dire, un peu profond. C'était encore embryonnaire. D'autant plus que je pense que là, maintenant, au-delà d'un jeu vidéo, il y a quand même tout un environnement qui reprend. Soit je dirais une espèce d'iconographie, soit des problèmes, soit un tissu de problèmes politiques, soit une je dirais un plaisir de jeu qui jongle avec les dimensions, etc. On est vraiment dans quelque chose de très intellectuel maintenant, de plus en plus intellectuel, qui n'était pas possible de toute façon dans les années 80.
Oui, et puis tu imagines Silent Hill dans les années 80 avec les compositions, les musiques faites avec les bruits de l'époque. Tu imagines la partition de Yamaoka, donc justement qui est devenu producteur de la série à l'époque, c'était infaisable, puisque le jeu participe surtout avec l'ambiance sonore.
Oui, et les samples, ouais. Derrière la musique, il y a des samples sonores qui effectivement sont
particuliers, c'est ça qui fait le jeu.
Le compositeur de la musique mêle des bruits, des sons effectivement à ses musiques, oui. Ce qui donne une perception, des sensations particulières à l'écoute et une perception de la musique un peu décalée, encore une fois.
Alors, quand on parle de Silent Hill, on a quand même en mémoire une autre saga horrifique qui est venue avant, qui s'appelle Resident Evil. Est-ce qu'il y a une guéguerre entre les firmes Capcom et Konami
? Non, on peut pas parler de guéguerre. Bon, il y a les aficionados d'un genre. Il y a les passionnés. Il y a deux fronts, effectivement. Entre guillemets, il y a les partisans de Silent Hill, plus dans l'ambiance, je dirais, plus dans le cauchemar, et ceux de Resident Evil qui sont plus dans l'action que dans le cauchemar et dans l'ambiance, quoi.
Tant qu'on parle de Resident Evil, on peut aussi parler d'adaptation cinéma. Les adaptations de ciné de jeux vidéo jusqu'à présent ont toutes été catastrophiques. Alors, à part le fait que les réalisateurs sont tous des abrutis, ça c'est Christophe Gans qui l'a dit dans les interviews, est-ce qu'il y a une raison à ça? Ou alors c'est juste qu'ils sont des abrutis, en fait.
Je pense qu'il est difficile déjà de partir d'un jeu vidéo pour faire un film. Moi, je suis complètement estomaqué de ce que j'ai vu au travers de Silent Hill. Je pense qu'on va en parler plus longuement après. C'est assez impensable d'arriver à faire un film à partir d'un jeu vidéo. Enfin, moi, je suis complètement sur le cul.
De partir en voyage dans un pays lointain et mystérieux, un pays céleste. La brume se lève sur le fleuve Mekong. Êtes-vous au Vietnam? Le vent caresse les feuilles de lotus, les bambous frémissent. Êtes-vous en Chine? Oui, vous êtes au cœur des arts martiaux traditionnels. À travers 24 mises en scène spectaculaires. Le combat de tigre, du dragon et de l'aigle, la boxe de la mante religieuse, le duel de la hache et du double sabre, et bien d'autres encore, les maîtres et les élèves de l'école Oulong Chen parlent de leurs plus beaux costumes, dans un spectacle son et lumière de haute qualité, vont vous éblouir et vous transporter dans l'univers de l'Asie éternelle. Partez avec nous le 6 mai à 20h30, salle des fêtes de Gaillac, réservation 05 63 58 13 00, je répète 05 63 58 13 00.
Si ça un peu numéro 3 arrive. Le vernis accouchement est annoncé le vendredi 5 mai au Voltigeur. Sur son berceau se pencheront Doctor Strange, Lego et Abstract. 6M1P number 3 le 5 mai au Voltigeur.
Douter, ça, à partir du moment où les ténèbres arrivent, plus rien ne passe correctement. Supplément week-end sur Radio FMR 89.1 MHz.
Et justement, les ténèbres se sont emparées des jeux vidéo, des licences. Puisqu'on parlait tout à l'heure de Resident Evil, tu as vu les catastrophiques adaptations qui ont été faites. Et je voulais savoir, parce que moi je suis interloqué là, depuis que je prépare l'émission, c'est que si le numéro 1 Resident Evil au cinéma était si pourri, comment se fait-il que Capcom ait autorisé qu'il y ait un numéro 2?
No comment, là je peux pas. Là je fais le. Tu vois? Je suis un peu embêté là.
Non, parce que c'est quand même assez difficilement croyable.
Non, ça va Thomas, moi j'ai plus catastrophique puisqu'il est question. Puisque Atari Games a vendu la licence Tetris. Le Tetris, le film va être donc réalisé par Robert Rodriguez avec dans le rôle du T-Vert Jean-Christophe Van Damme, Christophe Lambert dans le rôle du L jaune et Rocco Siffredi dans le rôle de la grande barre rouge. Donc à mon avis, ça peut pas être pire. Hein.
Bon, on va peut-être parler de Silent Hill maintenant. Mais avant de parler de ça, est-ce que là on sait qu'il y a, bon, on peut considérer déjà parmi les multiples échos qu'il y a eu sur le net et puis même nous-mêmes, on a pu voir le film avec nos propres yeux. On sait que c'est une énorme réussite. Est-ce que d'après toi, il y aurait d'autres jeux qui mériteraient d'être adaptés et lesquels seraient à adapter en priorité? On pense notamment à Shenmue, peut-être Wipeout, Metal Gear, Tetris. Non, pardon.
De préférence, moi je suis déjà client pour le Silent Hill 2. Puisque Christophe s'en parle déjà.
Donc tu fais l'original.
En ayant vu le premier, je suis assez preneur d'un deuxième là-dessus. Et assez rapidement, s'il vous plaît. Metal Gear, ce serait sans doute difficile à faire. Moins difficile, sans doute, qu'un Splinter Cell, oui. Et Splinter Cell est sur les rangs. Ça, c'est une information. Je sais pas si c'est un scoop pour vous, enfin, je vous le dis.
Ah, pour nous, oui.
Avant
oui.
cela, en tout cas, avant cela, ça c'est clair, il y aura Prince of Persia. Ubisoft se l'a confirmé.
La version toute première, là, celle en plateforme en 3D isométrique.
Voilà, hein, tout à fait, ça va être comme
les
ça.
Les sables ouais. du temps.
oui, ça c'est prévu.
Oh, attends, Doom a été adapté justement en vue subjective, c'était quand même assez osé. Bon, Doom. Tu me diras, c'est normal, c'est un film, oui, on laisse son cerveau. On laisse son cerveau à l'entrée, donc à
oui,
la alors, caisse.
Voilà. Oui, t'oublies le casting, il y a The Rock aussi dedans, et puis t'oublies que aussi il y a la vue subjective, ça intervient que dans les dernières minutes. Hein. Même oui. Moi, j'ai pas vu le film, mais enfin,
bon.
Alors, Silent Hill, ça raconte quoi? Les jeux, on parle des jeux.
Alors, les jeux racontent, en principe, racontent l'histoire de quelqu'un qui recherche quelqu'un d'autre. Bon, le tissu, c'est le genre, c'est le survival horror. C'est donc l'horreur, l'épouvante. Et Silent Hill a cela de particulier qu'il ne se situe pas dans l'action, mais plus dans l'ambiance. C'est une ambiance horrifique. C'est un peu le culte de l'horreur. Donc une personne, en l'occurrence une mère de famille, là, va perdre sa petite fille.
à l'occasion d'un accident de voiture et elle va se mettre à la rechercher dans Silent Hill. Ça, c'est le premier volet de Silent Hill, le jeu vidéo.
C'est pas un père de famille dans le premier ?
Alors, dans le premier, c'est exact, c'est un père de famille qui a un accident, etc. Dans le film, oui, c'est une femme. C'est une femme, c'est une mère de famille. Donc, les différents volets de Silent Hill, du moins le premier, le 2, le 3, sont tous axés sur la même chose, c'est la recherche d'un personnage disparu, que ce soit une épouse ou une enfant. Le dernier est tout à fait particulier, le Silent Hill 4, puisque Silent Hill 4 s'appelle The Room. C'est quelqu'un qui est enfermé dans une pièce et qui va vivre un cauchemar. C'est un peu une personne face à ses démons intérieurs.
D'accord.
C'est justement ça qui est étonnant, c'est que c'est un jeu d'ambiance. Moi, je crois me souvenir qu'il y a dans Silent Hill, moi, franchement, je me suis pris une frayeur. C'est vraiment le truc à ne pas jouer la nuit sur la console d'un ami qui vous a enfermé chez lui sans vous prévenir quel type de jeu c'était et sans vous prévenir qu'en plus il y a une installation home cinéma. Je peux vous dire, ça fait vraiment les boules.
Ça c'est
quand même assez bluffant. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que justement ce sont des personnages qui ont rien, qui ont pas d'éléments et qui subissent plus qu'autre chose.
Alors, si on compare, effectivement, quand on parlait tout à l'heure de Resident Evil, ou qui se situe plus dans l'action, donc ces gens n'ont rien. Tu veux dire, ces gens n'ont rien pour se battre en définitive. Ils ne sont pas programmés.
Ils ont une barre à mine, un couteau.
Alors effectivement, il a des choses qui tombent comme ça par hasard. ça, c'est le miracle du jeu vidéo. Mais ce sont des gens qui sont en proie à un cauchemar. Et le fil du rasoir de Silent Hill, c'est ça, c'est de se situer sur le fil entre le cauchemar, des événements qui sont réels, un point qui s'ancre dans le réel, et puis un dérapage ensuite dans l'altéré. C'est ça qui est tout à fait intéressant par rapport à une situation de Resident Evil où là on est dans l'action, oui, face à des zombies, face à des personnages qui vont à tout prix descendre.
Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que par rapport à des chefs-d'œuvre horrifiques comme Alien ou la littérature de Lovecraft, on a juste un aperçu, et là l'horreur est vraiment présente, elle est très présente, et malgré tout ça ne désamorce pas l'histoire.
Encore une fois, je pense que la clé de Silent Hill, c'est de tisser une ambiance forte, et tout participe à cette ambiance extrême. Tout tourne autour de l'horreur, que ce soit dans les décors mais aussi la musique, les bruitages. Le calcul fait sur les monstres aussi quand ils apparaissent, ou les personnes, on va dire, qui sont un petit peu retouchées par la nature, avec lesquelles la nature a été plus ou moins ingrate, on va dire. Il y a toujours quelque chose qui est poussé. C'est un mélange. Si on observe un peu le bestiaire de Silent Hill, on s'aperçoit que les personnages, par exemple, on voit les infirmières qui n'ont pas de visage ou qui sont dissimulées derrière.
Ouais, mais elles ont des putains de décolletés.
Les bandages ont des décolletés tout à fait sensuels, ont des formes rondes. La sensualité d'ailleurs est très présente dans Silent Hill. Elle est mélangée à l'horreur, ce qui donne, je pense, encore plus de force aussi à l'horreur. C'est qu'on joue avec le sensuel, le sexuel au milieu de l'horreur.
Ça actuellement, c'est une tendance lourde au Japon, justement, avec Spiral en manga, avec plein de films et de mangas justement ou de dessins animés qui jouent là-dessus d'ailleurs.
Mais finalement, quel est l'intérêt de jouer à un tel jeu, puisque quand tu Il est communément admis que quand tu joues, c'est pour t'évader un petit peu, ta vie quotidienne. Justement, l'intérêt des Resident Evil, c'est peut-être le côté arcade qui permet de se plus de défouler que Silent Hill, qui est quand même plus une introspection et qui te ramène surtout à ta condition de pauvre petit joueur derrière ta manette.
C'est tout à fait ça. La différence entre les deux, effectivement, il y a le côté méchant de la chose, si on part du côté des critiques. Les joueurs de Resident Evil sont considérés comme des bourrins. Ceux qui pratiquent la série Silent Hill sont déjà un peu plus évolués. Bon, ça, on s'arrête là. Non, simplement, l'un, encore une fois, se situe dans l'action. Et oui, il résonne un petit peu plus comme un FPS, donc un first person shooter. L'autre fait référence à nos angoisses personnelles. Donc va chercher au travers de situations que nous ne vivrons, j'espère, jamais, des frissons, des résonances comme ça, un écho de toutes les peurs que nous avons en nous et les faits et les cauchemars sans doute rattachés à l'enfance qui remontent. Et effectivement, le pied, c'est de s'enfermer dans le noir avec une bonne installation et de se faire un Silent Hill pour avoir effectivement la chair de poule, et ça marche.
Alors comme tu l'expliquais tout à l'heure, chaque scénario de chaque nouveau jeu est indépendant de... Enfin, on peut dire qu'il est indépendant dans...
Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer.
Ouais. Est-ce que c'est un système qu'on peut adapter aux différents films qui seront faits, puisque chaque jeu est indépendant? Tu n'as pas le père du premier qui est relié au celui du au mec du 2 qui cherche une épouse, dans le premier il cherche sa fille. Dans les films, est-ce que bon, c'est assez différent comme média, est-ce qu'on peut réutiliser ce procédé d'après toi, ou sans éviter une certaine lassitude?
Là j'aurais tendance à me tourner honnêtement vers toi et ta connaissance du cinéma pour répondre.
Je t'avais dit, c'était trop pointu. C'est pas bon les questions à 3h du mat.
Là d'ailleurs, je suis un peu sans voix. On peut, tu sais très bien qu'on peut tout faire effectivement au cinéma. Je pense que si Christophe Gans pense déjà à adapter un Silent Hill 2, oui, dans lequel il va expliquer, je pense, l'origine du traumatisme Silent Hill. Voilà, on peut. Silent Hill se prête effectivement encore une fois. Par sa trame, son origine, cette espèce d'ambiance, il ne tient que par ça et pas par un côté grand guignol. C'est pas forcément dans le gore qu'il faut aller chercher le tic-tac de Silent Hill. Je pense que la porte reste ouverte par rapport à un Silent Hill plus que par rapport à un Doom, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ou un Resident Evil qui se situe encore une fois uniquement dans l'action pure et dure.
D'accord.
Ouais, en fait, le principe, c'est tiens, un monstre. Bah c'est ça la différence. C'est...
Voilà.
Voilà. D'accord.
On va s'autoriser une petite pause avant d'entamer la partie film.
Ouais. Ah punaise, je me trompe de piste. C'est donc un supplément week-end spécial Silent Hill avec Christian Mondo, qui est journaliste sur une chaîne du satellite et aussi sur un site web, si je me trompe. Donc on a fait venir quelqu'un pour en parler et pour parler plus exactement de l'adaptation et du jeu vidéo en général. Mais là, on va parler
du réalisateur, car ce n'est pas n'importe qui, Christophe Gans.
Ah non.
Il est né à Antibes en 1960 et passionné de cinéma depuis sa butante enfance. Il répétera à longueur d'interview de toute façon qu'il avait reçu des boosts de cinéma dans la tête quand il était ado. Je pense que j'ai encore en mémoire cette interview qu'il avait accordée à Giordano, qui disait moi je vois 3 films par jour et puis depuis que je suis ado ça a jamais baissé, c'est génial. Et ensuite il va Il a publié son premier fanzine qui s'appelle Resus Zero, qui était un fanzine qui parlait de SF, de kung-fu, de films de genre, et quelques années plus tard, il ira faire ses études à l'IDEC, qui s'appellera plus tard la FEMIS, l'école de cinéma, où il réalisera son premier court-métrage qui s'appelle Silver Slime. Mais il se fera surtout connaître en lançant en 82 le magazine Starfix, où avec une poignée de journalistes passionnés, je crois que Nicolas Bourrieff en faisait partie, François Cognard, il va contribuer à faire reconnaître des cinéastes qui sont aujourd'hui cultes et reconnus, mais à l'époque ils n'étaient pas, comme Carpenter, Romero ou même Cronenberg. Et échaudé ensuite par quelques échecs, dont un projet de film d'heroic fantasy avec des lutins et une tentative d'adaptation de la BD trash de Liberator Rank Xerox, il réussit tout de même à percer grâce à la réalisation d'un segment du film à sketch Necronomicon, qui sort en 94, produit par Brian Yuzna, qui produira d'ailleurs son Craig Freeman. Et ce segment lui permet déjà d'inclure ses multiples références au cinéma italien dans ce premier sketch. Et justement, d'ailleurs, il y a Bruce Payne dans le casting du film qui fera beaucoup de navets par la suite. C'est toujours marrant de redécouvrir là-dedans. Mais surtout, sur son premier long métrage, Craig Freeman, sorti en 95, que Christophe Gans fera définitivement un nom auprès de la communauté de fans de manga, cinéma de genre, etc. Il obtient justement la réalisation de ce film suite au succès du sketch sur Necronomicon, et c'est sur ce film qu'il explose. Il place ses références de manga, de cinéma japonais, cinéma italien. Il en fait quelque chose d'extrêmement féminin.
Voire même moi, j'ai beaucoup vu dans Silent Hill beaucoup de références à une adaptation d'une BD dont on a parlé récemment.
Je vois pas trop. Hein.
Tac.
C'est quoi?
Ah, j'ai oublié, mais parlerait par Solvenberg.
History of Violence.
Voilà, exactement. Je retrouvais la même type de fin ouverte. Il y avait tout ça.
Mm-mm. Et surtout, son travail sur Craig Freeman lui permet de collaborer avec des gens, des techniciens qui le faisaient envie depuis longtemps, genre Big Eretti, qui était un ancien collaborateur de Pinkimpa, qui sera son chef-op, et également David Wu, qui était le monteur de Chang-Chi sur la rage du tigre et le monteur de Joe, sur tous les John Woo quasiment. Et justement, le tournage express de ce film, une vingtaine de jours, en fait, sera comme un rêve éveillé pour lui, même s'il a des problèmes d'ego avec son cadreur de première équipe qui était persuadé, lui, de faire un énième Hollywood Night. il le raconte justement dans les bonus, dans les commentaires. Ensuite, suite au succès de Craig Freeman, il peut lancer en 96 la collection HK Vidéo, du sport, ceux qui prennent la poussière chez toi, tu sais. Ainsi que le magazine HK qui traite de sa passion.
Faut dire qu'il est à l'origine, mais enfin c'est pas lui. C'est un peu le père spirituel, on va dire, hein, de ce magazine éphémère HK Vidéo, HK Magazine, hein, qui est donc le cinéma asiatique. Mais longtemps avant, hein, ça a commencé à sortir en 95, je crois. Mm-hmm. Et il y a eu 13 numéros qui sont sortis. Hein, c'était un mensuel au départ. Hein, puis après, comme à partir du numéro 4, numéro 5. Il y a eu un film en vidéo inclus avec le magazine VHS.
C'était surtout un magazine qui était très luxueux, l'impression, dans la maquette, c'était étonnant.
C'est grande classe, qualité, attention, papier glacé,
iconographie somptueuse, retouchée numériquement.
Ouais, c'était vraiment très très beau. Hein, de toute façon, il y a eu 13-14 numéros, et puis bon, ça s'est plus ou moins cassé la gueule, hein, parce que bon, c'était vraiment le produit trop confidentiel. Et bon, c'était vraiment le truc luxueux, tu vois,
cher,
vraiment le truc top luxueux. Non, pas tellement cher en fait. À l'époque, ça devait coûter, avec le magazine, la VHS, 40 francs, je crois, un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est pas excessif, hein, je veux dire, pour l'époque. Et vu le produit que c'était, par contre, c'était hyper centré sur le cinéma asiatique. Et à l'époque, un cinéma asiatique, c'était surtout ce qui sortait de Hong Kong. C'était le gros boom du ciné Hong Kong, hein, du ciné chinois, avant la rétrocession. Ouais. Bien entendu, hein, il y a eu le passage il y a eu la rétrocession, bien entendu. Enfin là, l'aventure HK, c'était déjà était déjà terminé. Il y a eu parmi les participants de ce magazine, on en retrouve dans
dans Mad Movies.
Technic Art, on retrouve dans Mad Movies, bien sûr. Il y a aussi
David Martinez.
Julien Carbon qui son collègue Laurent Courtiot, qui sont partis à Hong Kong, allés s'installer à Hong Kong, qui ont commencé à écrire des scénarios suite à l'interview qu'ils avaient faite avec John Woo pour justement HK, un des premiers HK, je crois le numéro 1 ou le numéro 2. Hein, il y avait eu un numéro 0 également dans cette collection HK. Et suite à cette interview, ils ont réussi à avoir justement quelques introductions pour partir à Hong Kong, et ils sont finalement installés à Hong Kong, où ils ont réussi même à écrire le scénario d'un film réalisé par et avec Michel Yeo, qui s'appelait la tunique ou la toison ou un truc comme ça.
En tout cas, ils en ont scénarisé plusieurs. Ils ont scénarisé Running Out of Time. Ont scénarisé aussi une des pires merdes de Schoeller qui s'appelle Black Mask 2. Et ils sont coupables de ça. D'ailleurs, j'ai vu dans le magazine plus généraliste Score qui prépare la réalisation de leur film à eux, tourné en France, donc ça promet d'être intéressant en tout cas.
Produit par Besson.
Parallèlement à ça, il y a Gans qui continue ses volontés d'élaborer des projets pour le cinéma, notamment 20 minutes sous les mers qui ne verra jamais le jour. Et par chance, il tombe sur un traitement de Stéphane Cabel au sein de Canal Plus Écriture qui s'appelle Le Pacte des Loups. Et il s'en empare comme un mort de faim. Il dit ouais, génial, je vais mettre mes références à moi, Soul Calibur, La Rage du Tigre, on va faire un remake chez nous avec les Français, on va convoquer Philippe Kwok, le chorégraphe de Hardboiled, génial. Et du coup, tout le monde lui est tombé dessus parce en disant oui, bon, tu es un grand connaisseur des films de Hong Kong, mais bon, ce que t'as fait, bon, c'est pas au niveau. Et alors justement, il fallait pas voir ça, il fallait juste voir un jeune qui s'amuse avec ses outils et qui dit ouais, génial, c'est mon rêve de gosse, et puis voilà. Le Pacte des Loups, il est sorti, il est devenu culte au Canada. Parce que justement, le personnage de Marc Dacascos résonne beaucoup là-bas, puis c'est un Mohawk canadien. Et voilà. Donc, du coup, il a convoqué plein de références à lui. Et puis il a voulu ensuite monter des projets comme Rang ou Bob Moran.
Avant ça, tu oublies une chose, c'est qu'il a fait il a produit la version française de Ghost in the Shell.
Je m'y attendais, mais je savais, j'avais pas mis là-dedans.
Manga Entertainment lui a retardé, c'était prévu une sortie mondiale, c'est-à-dire ça sortait à la fois au Japon, aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et Manga Entertainment lui a demandé son avis, il lui a dit non mais ça va pas, le doublage était à chier. Les textes étaient catastrophiques. Donc lui, il a repris ça, il a convoqué le doubleur de Schwarzenegger, le doubleur de Ripley. Il a complètement fait réécrire les textes. Et c'est vrai que quand il a fait l'avant-première à Angoulême, et une journaliste de Terra Max s'en est pris plein la tronche, qui a dit ouais, c'est beau, c'est écrit. Je me suis rendu compte que c'était écrit en vers et tout. Ouh, vous êtes journaliste à Terra Max. Il y a eu un blanc dans la salle. La fille est sortie sous les éclats de rire.
Voilà, toujours est-il que en parallèle de ces activités de supervision de doublage de Ghost in the Shell, et ben comme je disais, il a essayé de monter des projets qui n'ont jamais vu le jour à cause de la frilosité des financiers du cinéma français, les chaînes de télé, qui supportaient pas que Rand soit avec des films des hommes préhistoriques courtement vêtus et pas blancs. Du coup, il est parti.
Ce qui est dans la BD originale, Rand est le seul blond dans la BD. Ouais.
Et du coup, il est parti s'exiler aux États-Unis. Il a dit je n'ai plus rien à faire dans mon pays, je peux plus faire mes films. Et justement, le boom qui était espéré après le Pacte des Loups, tout le monde disait oui, génial, le renouveau du cinéma de genre en France. Mais pas du tout, c'était juste un constat nostalgique qu'il n'existait plus. Et puis il a dit ah non, mais moi je m'y attendais pas qu'il y ait un renouveau. Voilà, c'est tout. Et voilà, et maintenant il revient avec Silent Hill. Alors je retrouve mon petit article sur Silent Hill. Alors qu'est-ce qu'il a fait sur Silent Hill ? Il a convoqué au casting Radha Mitchell. Alors il faut savoir, avec Christophe Gans, c'est quelqu'un qui quand il fait un casting, il prend pas des acteurs qui sont habitués au genre, au cinéma fantastique, etc. Il préfère convoquer des acteurs qui sont habitués aux cinéastes d'auteur, comme les frères Dardenne, etc. Et comme il sait que les acteurs sont habitués à jouer dans la simplicité, puisque lui, il reconnaît, c'est pas un grand directeur d'acteur, et ben il prend des acteurs qui ont déjà travaillé avec des grands directeurs d'acteurs. C'est un mec qui est intelligent, qui sait jouer sur ses faiblesses. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Radha Mitchell, justement, qu'on avait vu dans Belinda et Melinda de Woody Allen. Bon, on l'avait vu avant dans Pitch Black, mais bon, je pense pas que ce soit pour ça qu'il l'ait prise. Sean Bean, bon, on a tous en tête Boromir, et puis les rôles de traître qu'il a pu jouer dans oui. Ronin. Oui.
Radha Mitchell, c'est la blonde qui se tire à la fin, là, hein, c'est ça, hein.
Dans
Pitch Black.
Oui, oui. Enfin, hein, qui se tire, non, elle crève à la fin.
Elle crève à la fin, non? Ouais.
C'est en fait c'est Vin Diesel qui se casse à la fin. Celui, c'est pas une fille.
Ah, il le laisse. Il le laisse, voilà. Ouais,
voilà.
Ouais,
et elle sacrifie, ouais, elle est empalée par la créature.
Okay. On a aussi, oh non, si vous êtes à table, bon déjeuner.
On a aussi Laurie Holden. Je pense que ça dira quelque chose à du sport puisqu'elle interprétait Marita Covarrubias dans X-Files, une des informatrices de Fox Mulder, et ainsi que Deborah Unger.
Ah.
Le fantasme de Crash.
Pas que de Crash.
Non, Highlander 3 aussi. Enfin, pardon. Donc c'est inspiré du jeu de Konami. Alors on a un peu parlé tout à l'heure, c'est pas la peine de revenir dessus. Toujours est-il que Christophe Gans a préféré s'appuyer en partie sur le scénario du 1, du premier jeu. Sauf qu'il s'est, en travaillant ce scénario avec ses comparses Roger Avary et Nicolas Boukrieff, il s'est aperçu que le mec, le père, avait surtout des réactions féminines. Il s'est dit, tiens, bah, c'est plus simple de le transformer en femme.
Ouais.
Il en a parlé justement au créateur du jeu, et puis il a beaucoup ri, l'autre a dit, ouais, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette adaptation? Mais c'est très grand à mon avis, c'est énorme. C'est l'adaptation la plus fidèle d'un jeu vidéo qui ait jamais été faite.
Et ça change de Super Mario.
Exact.
Ah non, Mortal Kombat était pas mal.
Moi je pense surtout à Double Dragon, Donjons et Dragons, fait que les trucs et les dragons de toute façon.
Bah, il est bien Super Mario, merde. Pourquoi vous aimez pas ce film? Il est gentil.
C'est pas s'il y a Dennis Hopper qui ressemble à Denver le dinosaure que ça. Alors voilà, il a fait un film pour les plus fervents adorateurs du jeu, enfin des jeux, et c'est une totale réussite.
Oui, parce qu'il faut savoir quand même, tu ne le dis pas là, c'est toi qui m'as dit que Christophe Gans était un féru de jeux vidéo.
Eh oui.
Faut quand même le dire.
Oui, oui.
Donc, il se fait encore une fois plaisir.
Il se fait encore une fois plaisir, puisque c'était un adorateur du numéro 2 surtout. Qui, bon, bref, il avait, enfin, on en a déjà dit sur cette antenne, mais on va peut-être le répéter. Il avait, pour avoir les rênes de la réalisation de cet épisode, il avait été consulté pour faire un commentaire sur la sortie DVD du 2, je crois, du Silent Hill 2. Et il avait fait sous-titrer en japonais cette intervention, il avait envoyé à Konami. Ensuite, pas de nouvelles. Et c'est uniquement suite à l'intérêt qu'ont porté les majors américaines sur la licence du jeu que Konami s'en souvenu. Ah ouais, il y a un mec assez talentueux en France. Ouais, un fou, ouais. On va lui accorder la réalisation, tiens, pour faire chier les ricains, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du film?
Attends, Konami a une vision d'auteur en général. On a parlé de toute façon de Metal Gear Solid, la BD qui sort actuellement chez Soleil. Oui. Ils ont fait une BD couleur camouflage. Ça fallait oser. Je t'ai coupé.
Non, mais y a pas de mal. C'est assez marrant dans le film de voir tous les gimmicks de réalisation qu'il a, puisque si vous observez bien, dans chaque film, ça commence dans un plan dans une falaise, un personnage devant une falaise. Craig Freeman, il y a la peintre qui est devant la falaise.
Oui, c'est vrai.
Dans Pacte des loups, bah, la fille est poursuivie par la bête avec des putains de façades rocailleuses. Et là aussi, bah, c'est la petite fille Sharon qui est devant la falaise, qui va sauter dans le vide en disant « Je vais retourner à Silent Hill !»
Il est originaire d'être tap, peut-être, non?
C'est un breton. Alors ce qui m'a frappé moi, c'est surtout la mise en scène à la manière des jeux, c'est-à-dire que glorification des objets, les accessoires, t'as le pendentif, t'as le téléphone qui passe autour du cou, ce sont des accessoires qui serviront à un moment donné du film et qui serviront plus ensuite. Le couteau qu'elle place délicatement dans la botte avec ce plan qui s'attarde bien sur cet objet qui servira à forcer un passage à un moment donné.
Ça, on dirait une cinématique de jeu vidéo justement.
Mais il faut savoir que tout à fait, Christophe Gans reprend des éléments vraiment propres au jeu, des objets, des situations, etc. Il colle réellement à l'univers du jeu vidéo, ça ce qui est fort. Il arrive à faire un film qui apparaît comme un complément du jeu vidéo. Je pense que ça donnera envie à certaines personnes qui ne connaissent pas le jeu de pratiquer le jeu, je pense.
Et alors ça veut dire que moi j'ai pas joué au jeu, ça reprend au plan près les cinématiques du jeu.
On reprend la cinématique de début de Silent Hill, donc le tout premier volet qui s'appelle Silent Hill tout court, est reprise dès le début du film. C'est le début du film, oui. L'accident, le fait de rechercher cette petite fille, la brume qui est présente,
La scène se passe de nuit, le réveil donc au petit matin, toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'emprunts, le plan de la ville, certains bâtiments comme l'hôpital, l'école, etc., des tas de lieux qui sont textos, beaucoup d'emprunts. Beaucoup. Là, les gamers vont retrouver de toute façon le jeu tel qu'ils le connaissent.
Ouais, on aurait presque envie de crier Sharon, Sharon, essayer de la chercher, la fille. Sharon, Sharon, Sharon. Chip, 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 chip. 13h.
Et voilà, donc au final, qu'est-ce qu'on a ? Une expérience extrêmement éprouvante. Tant au niveau de la bande son, puisqu'il reprend des morceaux des jeux, je crois qu'il y a le compositeur du film qui a collaboré avec le compositeur du jeu.
Oui, la bande musicale effectivement est faite par le compositeur des musiques de Silent Hill sur tous les jeux.
Mais voilà, c'est énorme. Xavier, on t'a pas trop entendu sur le film.
Moi personnellement, je me suis pris une claque monstrueuse. Je dois dire que justement, ce que je disais tout à l'heure, History of Violence, il y a vraiment des trucs que l'on retrouve. Mais là c'était vraiment flagrant sur les deux ambiances, et trois ambiances d'ailleurs, que l'on retrouve dans le film, mais aussi sur les cadrages, sur la manière de filmer. Il y a quelque chose de latent, et une scène en début où elle est avec un Zippo, on a vraiment une impression d'enfermement et d'angoisse énorme.
Oui, quand elle commence à comprendre, mais c'est quoi cette sirène?
Je crois que le maître mot effectivement de ça, c'est l'angoisse effectivement qui prend dès les premières images. Et enfin, moi j'étais un peu surpris j'attendais un peu d'un pied sur l'autre pendant la première moitié du film où je me disais je n'ai pas encore ce que je viens chercher, et ensuite je vous promets un dérapage qui ne vous lâchera pas jusqu'à la fin. C'est un vrai morceau de cinéma.
On pourrait dire que c'est Dario Argento qui s'y mise dans l'adaptation du jeu.
Oui, là il y a véritablement quelque chose de fort. Pour la première fois, je pense, le rapport jeu vidéo cinéma là tourne à l'osmose. Moi à mon avis c'est réussi.
D'accord.
Alors, j'ai
vas-y.
J'ai beaucoup ri hier soir parce que je suis tombé sur une critique de Télérama.
Oh non.
D'un mec, on va le nommer par contre, qui s'appelle Aurélien Ferenczi.
Alors, on mettra son orthographe exacte en commentaire sur la page du site. Pour ceux qui nous écoutent sur le podcast sur www.radio-fmr.net ou sur leur iTunes, vous pourrez le sabrer.
Oui, mais j'ai regretté qu'il n'y ait pas d'option de commentaire sur le site de Télérama pour l'insulter. Mais
non, il faut pas trop insister.
Alors, Silent Hill, le réalisateur du Pacte des Loups signe fable horrifique boursouflé issu d'un jeu vidéo. Alors, évidemment, le petit personnage de Télérama, il fait la gueule, donc ils ont mis zéro, évidemment. Et si les noces si souvent annoncées du cinéma et du jeu vidéo n'étaient qu'une vaste fumisterie, on sait ce que le second doit au premier, ce que le jeu vidéo doit au cinéma.
Bien sûr.
Des univers, des récits, des personnages. Pardon ? Les personnages des jeux en ce moment sont surtout plus intéressants que ceux du film. Ils sont beaucoup plus développés,
beaucoup plus épaisseurs. Ah
ben, c'est vous dire que même dans les séries télé, les personnages sont plus intéressants qu'au cinéma.
Voilà. Et parfois des acteurs qui viennent faire des voix dans le jeu tiré du film. Mais qu'a-t-il à donner en échange ? Avec Silent Hill, le trope n'est clairement pas équitable. Pourtant, à l'écran, un jeu réputé pour ses ambiances onirico-gothiques, Christophe Gans n'accouche que d'une fable horrifique boursouflée de la série B de nouveaux riches, de la terreur recyclée, clonée jusqu'à devenir un produit de pure synthèse. Alors ça, c'est des formules qui veulent quasiment rien dire, hein, d'après moi. Le réalisateur de Craig Freeman et du Pacte des Loups a beau bourrer jusqu'à la gueule son film de référence révérentielle, Dario Argento, on en a parlé, et le cinéma de Hong Kong, alors là, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est.
Je ne sais pas où il l'a vu.
Parce que là, apparemment, le mec, il sait pas de quoi il parle. L'horreur japonaise et Clive Barker, bon, peut-être. Impossible de frissonner une seule seconde à cette histoire de ville fantôme frappée d'une terrifiante malédiction dans laquelle une mère éplorée cherche sa fille adoptive. Ce qui plombe l'affaire, pour l'interrogation, un sérieux indéfectible, donc lui c'est trop, pour lui c'est très sérieux, il aurait fallu de l'humour, tu vois, qui affecte aussi bien la direction d'acteurs. Radha Mitchell et Sean Bean sont ridicules dès la première scène, alors qu'ils apportent de l'épaisseur, la consistance. Sean Bean est absolument énorme, alors qu'on le voit pas beaucoup. Que la conduite du récit. Comment raconter avec autant de gravité une histoire aussi bête, bourrée d'occultisme nié ? Le second degré et l'énergie de la comédienne Mila Jovovich ont tiré les adaptations de Resident Evil vers le jeu de massacre ludique très pop. Alors pour lui, Resident Evil c'est beaucoup plus réussi que celui-là, parce qu'il y a de l'humour. Et comme Mila Jovovich a autrement plus de charisme, tu comprends que Sean Bean et Radha Mitchell, c'est évident. Ici, on nage en plein pompierisme à l'image d'une scène finale. Alors là, je vais m'arrêter là parce qu'il spoil la fin.
D'accord.
D'une épouvantable laideur.
D'accord.
Pour moi, c'est extrêmement riche graphiquement, beau. Voilà.
C'est énorme.
Cette absence totale d'humour, c'est celle du joueur solitaire. Il revient. Hein. Celle du joueur solitaire crispé sur son joystick. Dans une aventure comme Silent Hill, le metteur en scène est autorisé à jouer. Bah, c'est le principe de l'adaptation ciné. Privé de toute participation active, fut-elle simplement émotionnelle, le spectateur aspire au game over dès la première bobine. Alors déjà, c'est une formule qui sera reprise partout, le game over, ouais, insert coin, les blagues qui fleurissent par les journalistes qui connaissent rien. Ouais, je suis resté au salle d'arcade quand j'étais petit. Voilà, donc en clair, il regrette qu'il n'y ait pas d'humour parce que, évidemment, on perd la notion d'interactivité. Et pour pallier à ça...
Il voulait scrim, quoi, tu vois.
Voilà, il voulait scrim.
Bah, ouais, je pense que c'est ça, ouais.
Moi, il y a une chose, justement, puisqu'on fait la comparaison... qui à mon avis n'est absolument pas justifié entre Resident Evil et Silent Hill. Ouais. Tu me disais hier, Christian, un truc très intéressant à propos des femmes dans Silent Hill sur la manière dont elles sont dessinées.
Oui. Et tu veux que je t'en reparle?
Ah bah oui, c'est pour ça que je te prends la
parole. Oui, tu nous avais tenu en haleine la dernière fois en parlant des bourrelets de la personne.
Ce fameux petit bourrelet.
Oui,
oui, c'est un des graphistes de Silent Hill qui avait été interviewé. Précisait que le personnage, les personnages féminins, et notamment celui de Maria dans un des épisodes de Silent Hill, qui est demeurant une jolie jeune femme, les personnages ne pouvaient pas être féminins, en tout cas, ne pouvaient pas être parfaits. La femme ne pouvait pas être apparaître comme modèle, comme une femme idéale. Il n'en serait jamais question. Il était plutôt question de faire apparaître la femme avec de petits défauts. Donc certes, elles étaient jolies, mais il soulignait le fait qu'elles devaient avoir un petit bourrelet replet juste en dessous du nombril, et on le voit très bien effectivement dans Silent Hill 3. On voit très bien ce personnage avec qui est d'une plastique tout à fait sympathique, mais avec ce petit bourrelet sous le nombril, très agréable. Et donc voilà, le concepteur de Le graphiste, donc en chef des équipes de Silent Hill, précisait ça. C'était un dessin qu'il voulait, ce genre de graphisme.
D'accord. Oui, sur les adaptations ciné, on va finir avec ça. La mise en scène des jeux vidéo, on l'a dit avec Metal Gear, puisque, enfin non, on l'a pas dit là, mais il est communément accepté que Hideo Kojima pour Metal Gear s'est beaucoup inspiré des films de McTiernan, des James Bond, etc. On a aussi du Carpenter dans certains jeux. Resident Evil, on n'en parle même pas puisque c'est une référence directe à Romero. Toutes ces références à des grands auteurs de cinéma, est-ce qu'on peut, tu penses qu'on peut voir ces grands noms s'occuper d'une réalisation cinéma, d'une adaptation cinéma de ces jeux, ou parce qu'on sait que c'est déjà le cas, comme Takashi Miike s'est occupé du jeu vidéo Yakuza, est-ce qu'il sera plus fréquent, par contre, de voir des grands auteurs de cinéma s'occuper de jeux vidéo directement ?
Moi, je souhaite qu'il y ait effectivement des passerelles étroites entre ces deux ponts-là. Je ne peux que souhaiter ça, parce que il y a des génies maintenant dans le jeu vidéo, qu'on parle d'Hideo Kojima, par exemple, sont des gens qui peuvent apporter un œil, qui sont férus de cinéma, au départ, pour pondre leurs jeux vidéo. On voit les références, on voit... Bon, il y a aussi une qualité graphique qui est à part, il y a de vrais artistes, il y a un côté arty maintenant dans le jeu vidéo. Je pense que quelqu'un qui vient du cinéma peut apporter aussi, pourquoi pas, un œil neuf aussi à quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo et se pencher sur une adaptation qui enfreindra peut-être les règles du jeu vidéo, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il y a une osmose à chercher, il y a des collaborations en tout cas maintenant à nouer entre les deux pôles.
Tu penses que c'est probable ?
Ah oui.
Oui.
C'est sûr.
D'accord. On va conclure ainsi ce dossier autour de Silent Hill avec Christian Mondeau, qui est notre invité, avec une interruption musicale d'extrait du nouvel album de Nouvelle Vague, Escape Myself.
In here, left alone, I'm with the one I most fear. I'm sick and I'm tired of reasoning. Just want to break out, kick off this game. I'm
Oui, c'était la fin du morceau, effectivement. Donc c'est le Thomas. Oui, ouais.
Je disais excusez-nous, on était parti sur des discussions.
Sur les discussions, c'est du off, hein, comme on dit. C'est extrait du nouvel album donc de Nouvelle Vague qui s'appelle Escape, qui s'appelle Band Apart. Excusez-moi, le premier album Nouvelle Vague était très fort. C'est en fait un groupe que vous avez pu donc dans ce genre-là qui reprend tous les tubes rock des années 80, rock pop et tout ça dans ce style-là. Et donc là, le nouvel album s'appelle Band Apart. Et donc le morceau Escape Myself, je trouvais que c'était ça allait bien avec
joli comme tout.
Le morceau du sport, tu
ça
mérites
va avec tout en plus.
Hein, jingle. Et alors, ah merde. Ah bah oui, forcément, il faut le recaler. Regardez ce regard.
Attends, mais c'est un jingle fourre-tout, ça. C'est le jingle cinéma aussi.
Ouais, ouais, c'est beau. C'est beau. N'empêche.
Ouais, mais ça, c'est la classe.
N'empêche, c'est beau. Ouais, ouais. Elle était chez nous il y a 15 jours. Elle était assise à côté de toi, Thomas. Et à présent, elle est dans Technicart.
Qui ça?
Elle est là.
Ah oui, Aurélia Horita.
Dernière page donc du nouveau numéro de Technicart. Aurélia
Horita.
Aurélia Horita, hein, qu'on avait reçu il y a 15 jours pour fraises et chocolat.
Ouais, pour nouvel manga, voilà.
Voilà.
C'est aujourd'hui, c'est la dernière journée d'ailleurs d'expo, hein. On voilà. a oublié de le dire.
Ok, bah ouais, profites-en. Alors profites-en. Donc tout ça dans le nouveau numéro de Technicart et beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses aussi, hein, bien entendu. Le numéro de SoFoot. Alors il va y en avoir pas mal. On apprend dans l'édito. C'est la page édito qui est la plus intéressante du magazine. Non, je déconne. Je déconne parce qu'il y a un super...
C'est la même équipe, hein, SoFoot et Technicart.
Il y a un super dossier sur le dopage dans le football.
Ah,
celui-là,
yes
on l'attendait. Il y avait déjà eu une prémisse avec un article dans un SoFoot passé. Mais enfin bon. Il y a également un article sur le foot et l'islam. Il y a de plus en plus de footeux.
Il y a plus en plus de mosquées à l'islam. Ouais.
Qui sont convertis. Hein, c'est un espèce de phénomène. Même Philippe Troussier. Enfin beaucoup hein, beaucoup quoi, pas forcément des mecs, on se dit ouais c'est normal parce que c'est plus près de chez eux, non. Mais par contre ce qu'on apprend de vraiment très très intéressant, c'est que mondial approchant, c'est bientôt, c'est dans un petit peu plus d'un mois, et bien SoFoot va s'associer avec Libé et va d'abord nous pondre je sais pas quand, vers la fin du mois de mai. Eh bien, un spécial SoFoot Libé, spécial Coupe du Monde. Et ensuite, eh bien, il va y avoir une participation quotidienne des journalistes de SoFoot qui vont écrire dans Libé chaque jour. Il y aura un cahier central spécial Coupe du Monde, mais qui sera réalisé en partie par les journalistes de SoFoot. Donc, ça va être vachement plus intéressant. Donc, on va pouvoir acheter Libé de nouveau. Quoi. Ça fait plaisir.
Ouais,
sans pour autant s'abonner. Mais enfin, bon, faut pas pousser quand même.
Dans ce cas-là, moi, je rêve quand même d'une participation dans le canard enchaîné des cahiers du football.
Ouais,
hein.
Ouais, non, mais bon, attends. Le foot va côtoyer. Il côtoie d'ailleurs assez souvent la tauromachie dans ce alors bon, faut quand même pas trop pousser, hein. Bon, enfin c'est quand même une très bonne initiative, moi je trouve, hein. Donc c'est tout ça on l'apprend dans le SoFoot de ce mois-ci et qui je répète, hein, c'est la deuxième mois, hein, que c'est toujours à 2,90. Dans le temps, c'était 4,90. Donc les mecs, quand même, quoi. Il faut pas déconner. De la télé à présent avec quand même une seule série inédite à vous regarder cette semaine, et c'est une série policière, les gars. Ouais. Et alors là,
yes
Thomas, Eric, il est en train de me regarder avec un petit sourire narquois et en train de me dire qu'est-ce qu'il va encore me trouver comme truc, alors qu'il nous a déjà parlé d'au moins 50 séries policières différentes, avec chaque fois le petit détail qui arrive à différencier la série X de la série Y. Et ben là, c'est pareil. En plus, c'est un petit peu dans l'air du temps. Je remarque déjà, je sais pas si vous avez remarqué, bon, une série Without a Trace, portée disparue en France, qui a vraiment un gros succès, on peut dire, hein.
Qui a bien cartonné,
aux États-Unis, hein, c'est le top, on va dire, hein, parmi les cartons d'audience. Et en France, ça marche vachement bien, hein. C'est la programmation de France 2 qui est, très judicieuse. De toute façon, hein, le dimanche soir, il y a pas de problème. Ça a bien remplacé. Les spectateurs accrochent. Enfin bon, les téléspectateurs accrochent et c'est assez intéressant. Et ce qui est assez rigolo, et c'est une tendance, je vais pas dire lourde dans les séries américaines actuelles, c'est un petit peu le renouveau du FBI. Le FBI, à des moments, surtout dû à son passé un peu sulfureux, on va dire, dans les années 60, 70, 80, où bon, c'est vraiment le creux de la vague, où même aux États-Unis on cherchait à s'en débarrasser, l'héritage vachement encombrant des années 50 et 60 qui commençait à être déballé, quoi. Donc ça la foutait vraiment super mal. Et là, donc il y avait plus tellement de les séries qui parlaient du FBI et tout. Généralement, le FBI, c'est le mec qui faisait venait faire chier les flics. Non, c'est à nous. Non, c'est nous l'enquête. Enfin bon, le gimmick absolu, mais enfin bon, qui marchait toujours.
En France, c'est entre la police et la gendarmerie.
Mais et sinon, il y avait des agents de Rescue aussi.
Ouais, mais enfin bon, justement, c'est depuis X-Files, on va dire, et encore, X-Files, si tu veux, Mulder et Scully, hein, on peut dire que le FBI a quand même le mauvais rôle dans X-Files, vu que, un des meilleurs agents se retrouve dans un petit bureau, dans un trou et tout, et qu'on envoie quelqu'un pour l'espionner. Exact. Tu vois, c'est le trip de départ d'X-Files, donc bon, on peut dire que le FBI n'a pas forcément le beau rôle non plus. Alors que dans FBI porté disparu, y a pas de problème, hein, ils sont là, ils sauvent les gens, en plus, t'as des histoires qui sont vachement, qui te prennent vachement, des gosses qui disparaissent et tout, la maman, enfin tout. La totale, c'est du gros, c'est du lourd, ça tâche, mais ça marche vachement bien, vachement bien, vachement bien. Non, mais c'est vrai, hein. Il y en avait une autre dont j'avais parlé il y a pas si longtemps que ça, qui a pas marché, In the Line of Fire, également, hein, une histoire d'une équipe du FBI à Richmond, juste à côté de Quantico, en Virginie. Tu vois bien où c'est, Richmond, non?
Toujours la Virginie.
Bon, ok.
Ah bah, non, mais c'est là où il y a l'université, non, du FBI.
Le Quantico, bien, voilà. C'est bien ouais. Ce que je dis, Quantico. Ouais. Ok. Bon,
D'accord.
Venons-en à cette série qui s'appelle The Inside. Et si elle est diffusée sur une chaîne qui habituellement n'est pas une chaîne qui diffuse trop de séries policières, c'est plutôt la chaîne féminine par excellence, c'est Teva. Qui nous diffuse The Inside. Par contre, elle peut le faire qu'en deuxième partie de la soirée parce que c'est quand même du assez rough quand même au niveau des histoires. Hein. C'est catalogué -12, donc c'est pour jeune public assez averti quand même. Et c'est l'histoire en fait d'une nana qui rentre à l'intérieur d'une équipe du FBI qui est chargée de traquer les tueurs en série. Là, c'est tout à fait original. Mais dans cette équipe, justement, le profiler de cette équipe vient de se faire dégommer par un tueur en série, et donc faut le remplacer. Et à la place de le remplacer par quelqu'un qui a justement été formé à Quantico parce que il connaît tout Tagada et tout, on va le remplacer par une jeune nana qui elle a été une victime de tueurs en série et qui a un petit peu ce don de pouvoir pressentir, hein, comme elle a déjà été dans le feu de l'action, elle arrive à pressentir justement ce qui peut se passer. Voilà quel est le pitch en fait de cette histoire.
Tiens, c'est marrant, ça me rappelle le nom d'un libraire qui est spécialiste des tueurs en série français. C'est Sébastien, j'ai oublié.
Stéphane Bourgoin.
Stéphane Bourgoin, oui, voilà.
Voilà. Ouais, bon, c'est pas la peine de parler de lui, quoi.
Oh, d'accord, ok.
Bon, mais comme ça, c'est fait.
Voilà. Alors, dans le rôle principal, donc, de Rebecca Loki, qui est la profileuse qui vient donc intégrer cette équipe du FBI, c'est Rachel Nichols, qu'on avait déjà vu dans Alias dans la saison 5, où elle joue le rôle de Rachel. Elle est bonne. Il y a également des vieux de la vieille, genre Peter Coyote, Adam Baldwin, la dynastie Baldwin toujours, et Adam, c'est pas le plus con, hein, de toute façon, de la bande. On va dire, tout
c'est
ça,
qui
c'est
le plus con alors.
Des noms. Ah, je vous le laisse. C'est The Inside, donc diffusé par Teva, c'est tous les mardis à partir de 22h40, hein, donc signalétique -12, et donc mardi prochain, le pilote et un épisode. Sinon, je vous rappelle quand même, ça a commencé samedi dernier, mais bon, c'est vraiment excellent. Entourage, hein, cette série initiée par Mark Wahlberg sur les dessous de Hollywood. À travers les démêlés d'un jeune acteur, hein, qui monte comme ça, qui commence à gagner des millions de dollars et puis qui commence à voir que du côté de Hollywood c'est pas génial. Tout ça c'est dans Entourage, donc c'est sur TPS Star ce soir à 20h05. Et si vous avez loupé le Dr House qui passe habituellement tous les mercredis sur TF6, Il y a désormais une rediff. Avant, il n'y en avait pas. Hein. Si tu ne voyais pas les deux épisodes de la soirée, tu étais niqué pour la semaine, tu ne les voyais plus. ou alors Eric attendre Jean, l'éventuelle rediffusion de la série dans les bouches-trous de l'après-midi, tu sais. Quoi. Enfin bon, non. Là, ben, c'est rediffusé donc le samedi soir, hein, ce soir, à partir de 23h20. De la série encore avec de l'inédit en ce qui concerne New York Special Unit, la série avec Christopher Meloni et Mariska Hargitay, hein, dans la série Law and Order, mais là c'est les crimes sexuels là, tu vois. Et si il n'y a pas de prolongation et pas de tir au but, ce sera vers 23h10 après le tunnel de pub sur TF1 ce soir, et là c'est la saison 7. Donc c'est de l'inédit avec un épisode qui va être, à mon avis, qui peut être que bon de toute façon. Ça s'appelle Les Vieux Démons, hein, avec comme invité principal, et donc il joue le rôle du méchant, Robert Patrick, le T-1000, mon gars, le T-1000, qui est là dans le rôle d'un violeur.
Et
voilà.
L'agent, je sais plus comment il s'appelle dans X-Files aussi.
Ouais, justement, j'ai cherché le nom, j'ai pas trouvé. Quoi. Là, j'ai les boules, tu vois, quoi, franchement. Quoi.
Un violeur. Non, le Robert Patrick, il joue un agent fédéral.
Ouais, c'est lui qui remplace Mulder dans la saison 9 de X-Files, la dernière saison.
D'ailleurs, j'ai oublié de chercher le pseudo emprunté par McGowan pour réaliser.
Et donc
les
la question est toujours d'actualité. Hein, quel pseudo a utilisé Patrick McGowan pour réaliser 2 ou 3 épisodes de la série
Le Prisonnier,
sachant qu'il a réalisé sous son nom les deux derniers épisodes.
Bonne question.
Ah ouais, là il faut chercher quand même un petit peu. Hein.
Ouais, parce qu'il nous a mis au défi, on a eu la flemme de chercher.
Eh ben, vous pouvez chercher, les auditeurs, auditrices, pareil, vous pouvez chercher. Si vous trouvez, il y aura un petit paquet de BD. on ira cambrioler chez Xavier.
0561-680-680.
Un lot assez sympathique. De la série déjà diffusée, mais c'est toujours un plaisir de la revoir, hein. C'est cette excellente série britannique, encore des histoires de policières, mais là c'est vachement dans le glauque quand même. C'est La Part du Diable de Shiri Folson, une mini-série anglaise. Là c'est un épisode de 97, mais un double épisode, hein, qui s'appelle, je sais même plus quoi, j'ai même pas noté quoi, bon c'est un peu con, mais Scalp, voilà, ouais, ça s'appelle Scalp en deux parties, une histoire de tueur en série qui découpe les... mais très brillamment interprété par Robson Green, hein, dans le rôle de Dave Grigan. Il y a également James Nesbitt qui est d'ailleurs à l'affiche et qui est d'ailleurs l'acteur principal d'une autre série britannique qui passe sur France 4 mardi prochain, la loi de Murphy, Murphy's Law. Je sais pas si vous avez déjà regardé. Ben James Nesbitt est également présent dans La Part du Diable. Donc il y a également Nicolas Walker, hein, qui est la nana, on va dire pas faire valoir, mais enfin. Non, pas faire voleur du tout, hein, parce que bon, il y a un épisode où c'est carrément elle qui est mise en avant par rapport à Robson Green, c'est vachement bien, quoi. Là, rien à dire, hein, c'est la très 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 grande télé, hein, c'est normal, c'est britannique, vous allez me dire, mais enfin, toujours, oui. C'est TMC, donc demain soir douter. À partir de 22h35. Oui. Sinon, l'arnaque. De M6, c'est quand même Smallville, hein, avec la présence de James Marsters, qu'on a vu quoi?
Deux épisodes?
10 secondes à la fin du premier épisode. Non, vous foutez de la gueule du monde, les gars, là. Non, mais là, vous foutez de la gueule du monde.
Oui,
ben,
oui,
sans problème.
Là-dessus.
Ouais, surtout, n'écoutez pas du sport. Il dit que des méchancetés.
T'étais prévenu.
En tout cas, elle sera bien là ce soir dans le premier épisode de Smallville. C'est Carrie Fisher. Avec, avec des années en plus quand même, hein. Faut quand même pas déconner, hein. D'accord, hein. C'est ce soir dans Smallville, dans le premier épisode. Et sinon, c'est tout pour les séries. Alors, des téléfilms et des films à la ramasse, tu vas en avoir à l'appel. Tout d'abord, celui-là, c'est pas un afton. Il a déjà été diffusé. Je sais pas si c'était sur 13e rue. Mais vraiment, c'est un téléfilm tout à fait appréciable, excellent, hein. C'est, on va dire, une très bonne série B, quoi, on va dire. Ça s'appelle La Loi des Armes, c'est une coproduction allemande et américaine, filmée par Dominique Format, un film de 2001 avec Jeff Bridges, John Abrams, Noah Wyle, Peter Green et Robert Lee Hermann. Dr. Carter,
oui,
quoi.
Oui.
Tu vois, dans l'histoire de mec qui doit se faire convoyer, par des malfrats, et puis bon, ça part en couille et tout. Enfin bon, c'est vraiment très très bien filmé, c'est vachement d'action durant tout le film, c'est bien, quoi. C'est vraiment, ça se laisse regarder les doigts dans le nez comme ça, tu cherches pas midi à 14h, c'est génial, c'est excellent. Donc La Loi des Armes, c'est lundi soir sur 13e rue à partir de 20h50. Sinon, Eh bien, on parlait de Steven Seagal. Regarde, il est là. Mais avant de parler de Steven Seagal, on va quand même parler de mon Seagal préféré, Michael Dudikoff, les gars.
Encore
deux films, avec deux films cette semaine de Michael Dudikoff. Ce soir, Contre-offensive de Fred Olenrey. Ça, c'est du lourd, hein, 99, avec Rick Drazin, avec Michel Green. C'est l'histoire d'un ingénieur qui travaille pour une multinationale et il est programmé pour commettre des meurtres. Mais petit à petit, il va commencer à comprendre. Et alors là, il va pas être content du tout. Là, je te le dis, mon gars. Ce soir sur NT1 à partir de 20h40, donc TNT, hein, sur une chaîne TNT, une autre chaîne TNT, AB1 qui vous diffuse un autre Michael Dudikoff lundi prochain. Avec un titre qui a été pompé sur un autre qui s'appelle La Dernière Cible, quoi, donc de Damien Lee. Si si. De Damien Lee, date de 96 celui-là, avec Michael Johnson. Alors lui, il aime bien les nanas qui s'appellent Michel, t'as vu, hein, Michael Dudikoff, parce qu'il s'appelle Michael. Dans Contre-offensive, il y a Michel Green, et là, il y a Michael Johnson, tu vois. Et là, c'est un petit peu plus simple quand même. C'est l'histoire d'un chasseur de primes qui se fait avoir dans les grandes largeurs. Mais alors, dans les grandes largeurs, je te dis pas. Mais seulement, bon, quand il va commencer à comprendre, ça va changer.
Ah, lui aussi?
Ouais, forcément. Et on sait que Michael Dudikoff est en concurrence directe, hein, au niveau du choix de ses rôles dans les films, avec Jeff Fahey. Je crois qu'ils ont tous les deux les yeux bleus en plus, tu vois. Alors, et Jeff Fahey, ben, c'est également un spécialiste du actionneur série M ou série P, tu vois, mais pas mal aussi. Il a un certain genre, comme, enfin, je préfère Michael Dudikoff quand même. Jeff Fahey en concurrence directe samedi soir, donc ce soir à la même heure pratiquement, à 20h50, hein, sur AB1 avec Johnny Two Zero. Ah, ça ressemble un petit peu au nom de la série qui s'appelle Jake
2.0.
Voilà, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. C'est réalisé par Neil Ferney de 97 avec alors là, rien que pour ça, on va regarder quand même, jeter un œil, plus qu'un œil de toute façon, il y a Tani Welsh, la fille de Raquel.
Ah oui.
Et il y a surtout le grand, l'immense, le magnifique Michael Ironside.
Ah, j'en étais sûr. Ouais. Quand il dit, on va le regarder juste pour ça, j'étais sûr que c'était Ironside.
Ouais. En 2020, sur une terre dévastée, un clone recherche un scientifique à l'origine des techniques du clonage. C'est pas du pitch, ça, mon gars. Jeff Fahey, qui est peut-être dans un film le plus intéressant des quatre que je vous cite là, qui s'appelle Body Parts, c'est jeudi prochain. Avec un film d'Eric Red de 91 qui est quand même alors les trois que je viens de citer, c'est du moins 10, hein, c'est-à-dire au classique, hein, la baston tranquille, là moins 12, il y a un petit peu de trash quand même, hein, le titre Body Parts, mon gars, avec interprété par donc Jeff Fahey, Kim Delaney forcément, New York Police Blues, eh ouais celle qui se fait, hein. Ouais, ça le fait, quoi. Et l'immense, le magnifique, le génial Brad Dourif. Et c'est l'histoire d'un criminel dont les membres ont été greffés sur des accidentés de la route, et lui, bah, il va chercher à récupérer ses morceaux.
Reste à moi, ça.
Ouais, merde, pas déconner, quoi. Mais bon, si le pitch paraît un petit peu improbable, c'est rien à côté du pitch du Seagal de la semaine qui s'appelle Justice Finale. Steven Seagal tout mou de 98. Bah ouais, 98, c'est il y a 6 ans, donc 8 ans,
c'est déjà tout mou. C'est la Justice Sauvage?
Non, pas du tout. C'est l'histoire d'un médecin immunologiste qui recherche l'antidote à un virus surpuissant qui a été propagé par des terroristes néo-nazis.
Laisse-moi deviner, le médecin spécialisé en immunologie en question, il est bouddhiste.
C'est lui.
Il est bouddhiste, il fait du kung-fu en amateur, des trucs comme
ça. Et là dans celui-là, il monte à cheval.
C'est comme dans les James Bond, quand il y a Denise Richards qui est ingénieur en physique nucléaire.
Non. Dans celui-là, tu le vois à cheval.
Le pauvre cheval.
C'est mardi.
Faut pas rester là, monsieur. Faut pas rester là, on va vous ramener.
C'est mardi, c'est sur TF6 à partir de 20h50. Et au fur et à mesure de mes zappings, je me suis rendu compte, surtout la semaine dernière, que notre chaîne, la TNT, bien proposait des secondes parties de soirée vraiment très intéressantes, hein. Il s'agit de Direct 8, la chaîne de l'autre enfoiré là.
Bolloré.
Voilà, ouais.
Merci, pas de nom à l'antenne.
Voilà, bon. deuxième partie très intéressante parce que cinéma, pas mal de cinéma.
Ah ouais,
surtout des vieux trucs, hein. C'est-à-dire il y a un catalogue, je sais pas comment ils ont fait, mais enfin bon.
Ils ont abandonné l'idée de faire du TLT de luxe, c'est-à-dire que du direct et même pas de rediff.
Ouais, non, mais ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. même. Hein. Même Morandini, c'est pas en direct, pour te dire. Quoi.
Tout est possible.
Ouais, ouais, ouais. Par contre, il a recyclé, hein, Morandini, qui est donc passé sur Direct 8 pour animer son émission de télé. Avant, il faisait ça sur Match TV. Il avait la même émission sur Match TV. Il a repris la même nana. Bon, il a récupéré d'autres mecs, dont un mec totalement imbitable. On se demande ce qu'il a à parler de télé, ce mec, parce qu'il est plus connu pour faire chier l'intelligentsia parisienne de droite. C'est Paul Vermus, quoi, tu vois, rien à foutre là-dedans, quoi. Il a récupéré également un chroniqueur qui était avec Maïtina Biraman dans l'émission de Canal+. Mais à part ça, bon,
ça y est, ouais, il capte Direct 8 maintenant. Ouais.
Ouais, mais à part ça, bon, je veux dire, ça change pas beaucoup, quoi. Et il y a également le panel. Alors c'est une autre idée vachement intéressante. J'en avais parlé un petit peu, le panel, c'est-à-dire que sur le plateau sont présents ce qui peut être représentatif du téléspectateur moyen. Alors il y avait une un mec, une black, une jeune fille, et qui donne leur avis à un moment, ah oui, et vous pensez quoi de ça? Oh ouais, moi je trouve ça bien, c'est cool, enfin non, c'est nul, je vois pas pourquoi, enfin c'est pas tellement intéressant. Par contre, deuxième partie de soirée, bah il y a des fois des petites perles comme ça. Je suis tombé par hasard sur Blazing Saddles jeudi dernier. Le shérif est en prison de Mel Brooks, quoi, tu vois. Donc en version originale,
oh,
s'il vous plaît.
Merde.
Alors bon,
merde, ok,
je me suis dit ouais, peut-être. Alors le samedi, c'est théâtre. Alors on peut redécouvrir Francis Huster avec juste un tout petit peu de poil sur le menton comme ça, parce que ça poussait pas plus à l'époque, tu vois. Et il jouait déjà les jeunes premiers magnifiques. Des petites choses comme ça. La pièce de ce soir, 22h30, c'est une pièce de Musset qui s'appelle On ne badine pas avec l'amour. Demain soir, alors l'horaire est toujours le même, 22h35. Demain soir, donc dimanche, ciné avec un film de Pascal Thomas assez connu, hein, Les Ozos, 1973. Pascal Thomas, un mec qui a fait à nous les petites anglaises. Lundi, un film très vieux, mais alors celui-là, tu te pisses dessus de rire parce que c'est avec les vieux acteurs de l'époque musical français, avant qu'il y ait le cinéma. C'est un film qui s'appelle Les Piques Assiettes de 1960 de Jean Giraud. Avec la fine fleur du musical français, quoi, c'est-à-dire tous les acteurs que tu vois après dans les films comiques, Blanche, Poiret, Serrault, enfin tous, ils sont tous, et celui-là il est vraiment très très bien. Mardi, on change de registre, toujours du cinéma, mais alors là c'est du peplum avec Le Choc des Titans de Desmond Davis de 1960. Mercredi, et là ben il y a quand même de la série, et là ben l'UE quand il diffuse la série, c'est de la série de luxe, c'est Les Rois Maudits, mais pas la version toute pourrie qui est passée dernièrement, la vraie version.
Celle de 70?
La vraie version, celle de 70. On a loupé, vous avez loupé, mercredi dernier la première partie, ben, mercredi prochain, deuxième partie donc des Rois Maudits. Non,
le foot face à Maurice Druon, l'Académie française prime, c'est obligé.
Et jeudi également un autre petit film d'aventure pas dégueulasse de Richard Thorpe de 53 qui s'appelle La Perle Noire. Et le vendredi, vendredi c'est boîte de nuit.
Ça y est, toujours boîte de nuit.
Ouais. Vendredi
putain,
soir.
Mais ce truc, c'est improbable, ce truc.
C'est un petit peu psychotonique, mais bon.
D'accord.
C'est ça la télé, mon gars.
Oh, on envoie les DJ dans ce cas-là. On envoie le DJ.
Ouais, ouais, vas-y, envoie.
D'accord, bah ok. Et ben, c'était Supplément Week-end. On a débordé de 35 minutes exactement. Et pourtant, malgré tout.
Mais c'est pas bien.
Oh, Thomas, je te demande de faire le résumé de l'émission pour ceux qui l'ont pris en cours de route.
Oui, Thomas, fais le résumé. Nous avons eu une spéciale Silent Hill avec la présence de Christian Mondo.
Oui.
Nous avons été séchés, explosés, nuls en géo, Xavier, Christian et moi, sur la géographie des États-Unis, et notamment les environs de Quantico.
Oui.
Xavier a parlé de Sébastien Bourgoin, il fallait pas en parler apparemment.
Et
Stéphane, oui.
Stéphane Bourgoin. Ouais. Et puis voilà, c'était une bonne émission avec beaucoup de retard.
Oui, c'est vrai qu'en plus le bipolaire est parti avec 30 secondes de retard, mais je tiens à signaler que tous les plantages que vous avez pu entendre sont tout à fait normaux. Puisque c'était complètement contrôlé et c'était en rapport avec le film Allez voir Silent Hill de Christophe Gans, ça vaut vraiment le coup. Oui. Et c'est peut-être une occasion.
Affirmatif.
Nous avons aussi oublié quelques sketchs chez nous parce qu'on n'a pas réussi. Oui, moi j'ai pas réussi à les imprimer, enfin j'ai oublié de les imprimer, donc vous les retrouverez sur le site de l'émission puisque voilà, vous pourrez vous refaire les petits quiz qui étaient prévus.
Christian, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
J'ai passé un excellent moment, je vous en remercie beaucoup.
On te retrouve sur quelle chaîne d'habitude?
Oh non, je peux pas le dire. Tchatch TV, l'émission s'appelle Playon.
C'est moi qui peux pas le dire, voilà, c'est normal, donc c'est tout. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, tout de suite c'est du sport, à partir de 15h c'est le reggae avec Zarma, à 17h c'est du rock avec Vie d'Ordure, 18h tu peux l'ouvrir, c'est une émission participative, le numéro de la station c'est 05 61 580 590, 19h, happy hour. Et nous d'ailleurs on part au resto de suite, 20h la Stétéro Expérience avec Digitro et quand c'est trop pico, 20h à 1h30, It's Sky, c'est de l'électro tout aussi barré, 23h, Wakebeat Expérience avec Payo et SKS, et puis spécial dédicace à Brooks, qu'on aime beaucoup et que voilà, donc c'est pour ça qu'on passe comme d'habitude Omni Trio First Contact.
Ouais. Moi je voulais juste remercier Sébastien pour sa doc impressionnante sur Silent Hill qui m'a bien briefé avant de préparer l'émission.
Absolument énorme, on mettra les liens sur le site, promis juré, et puis voilà, et à partir de la semaine prochaine il y aura pendant 2 mois une partie culinaire dans Supplément Week-end avec les 3 petits pois, et vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast, en différé, vous pouvez réécouter toutes les émissions jusque pratiquement à la première, si, première incluse, sur le site de la radio.
Les 68 émissions, ça commence à faire.
www.radio-fmr.net 68, ça veut dire que la 69, la prochaine, c'est toi qui es à cette place.
Apparemment,
ouais. Ouais, t'as pas eu le temps d'être briefé, mon pote, il va falloir que tu viennes 2 heures avant. Du sport à caisse.